France Info.
Comment les enfants vivent-ils cette canicule et quelles sont leurs inquiétudes? Swan, Célia et Luca posent leurs questions aujourd'hui dans France Info Junior. Ils sont en CM1 à l'école des Tilleuls à Orsemont dans les Yvelines. Et pour leur répondre, un médecin urgentiste de l'Hôtel Dieu à Paris est venu dans notre studio à France Info. Gérald Kierzek, bonjour.
Bonjour.
Vous allez répondre à toutes leurs interrogations. Estelle Faure, écoutez, leur a d'abord demandé si c'était pénible pour eux cet épisode de forte chaleur, notamment en classe. Je vous propose d'écouter leurs réponses.
Moi, j'arrive pas trop à me concentrer parce que j'ai trop chaud et des fois je suis en sueur.
Ça m'endort parce que il fait chaud, du coup plus il fait chaud, plus t'as envie de dormir.
Moi le problème c'est que quand je suis en classe, quand il fait chaud, ça me donne envie de dormir, et quand je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir de la nuit.
Est-ce que vous reconnaissez les symptômes classiques?
Oui, alors c'est même pas des symptômes, c'est-à-dire que c'est l'adaptation du corps, c'est-à-dire que le corps doit s'adapter. Quand la petite fille parle de sueur, c'est normal, la sueur c'est la transpiration, ça permet d'évacuer la chaleur, parce qu'on a un organisme, on doit être à 37 degrés de température, et il y a des mécanismes pour tout faire pour maintenir à 37 degrés. Et un de ces mécanismes pour évacuer la chaleur, c'est la transpiration, d'où la sueur. L'autre mécanisme, c'est de ralentir un peu ses activités, parce que c'est sûr que si on est très éveillé, si on bouge beaucoup, on va produire encore de la chaleur. Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut au contraire produire du calme pour diminuer la chaleur. D'où le petit garçon qui dit j'ai envie de dormir la journée. C'est-à-dire que je suis un peu au ralenti. Ça c'est tout simplement l'adaptation. Donc on peut pas parler de symptômes parce que les symptômes ça serait une maladie. Là c'est l'adaptation normale du corps.
Une question de Célia.
Pourquoi la canicule nous déshydrate tant?
Alors la canicule, elle déshydrate parce que notre organisme doit évacuer la chaleur. Pour évacuer la chaleur, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme d'adaptation du cœur qui doit s'accélérer et les vaisseaux, les artères, les veines vont se dilater, vont s'ouvrir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rouge aux extrémités quand il fait chaud. On est toujours un peu rouge parce qu'il y a du sang qui arrive, parce que les vaisseaux s'ouvrent. Et le deuxième mécanisme, c'est qu'on va suer, on va avoir de la transpiration. Et cette transpiration, c'est de l'évaporation et ça permet, un peu comme dans une chaudière, d'évacuer la chaleur. Donc qui dit transpiration dit perte d'eau, mais pas que de l'eau. Il y a de l'eau, et donc c'est la déshydratation, mais il y a aussi du sel, il y a plein de choses qu'on a dans notre sang et dans notre organisme, et donc on va suer, perdre de la transpiration, et cette sueur, c'est de l'eau qu'on n'a plus à l'intérieur du corps, de l'eau et du sel, et d'où la déshydratation, qui est d'ailleurs un risque, c'est un des principaux risques, c'est d'être déshydraté, et voilà pourquoi il faut compenser l'eau qu'on perd, et on perd jusqu'à 1 litre par heure d'eau, donc il faut qu'on puisse le compenser, et quand on perd d'un côté, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplir de l'autre.
Lucas.
Est-ce que la canicule provoque des maladies?
Alors la canicule peut provoquer une maladie qui est la déshydratation, ou en tout cas c'est une conséquence de la canicule. Donc ça c'est la déshydratation, c'est la conséquence directe. Mais par contre ça peut faire décompenser, on appelle ça décompenser dans notre langage médical, c'est-à-dire une maladie comme le diabète ou comme l'asthme qui va bien, qui est stable, il n'y a pas de symptômes parce qu'il y a des traitements, eh bien la canicule va déstabiliser. Et c'est là où une personne qui respirait bien mais qui est asthmatique, eh bien avec la chaleur, elle va avoir une crise d'asthme. Quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui est une pompe, qui a du mal à pomper le sang par exemple, si les choses sont bien stables avec le traitement, avec tout va bien, avec des températures normales, eh bien avec la canicule, comme le cœur va devoir s'adapter et pomper un peu plus vite, et bien ce cœur il est malade, et bien là il ne va pas pouvoir s'adapter, il ne va pas pouvoir pomper plus vite, et donc on va avoir là une crise, non pas une crise cardiaque, mais une crise d'insuffisance cardiaque, un œdème du poumon, tout simplement parce que la maladie de base, et bien elle va être déstabilisée, c'est ce qu'on appelle la décompensation.
Alors on va parler des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables avec cette question de Lucas.
Pourquoi les enfants et les personnes âgées sont-ils si concernés par la canicule ?
Parce que les enfants et les personnes âgées sont les personnes les plus fragiles dans le sens où la moindre déstabilisation, la moindre déshydratation par exemple, va jouer sur leur organisme qui est pour les enfants, un organisme qui est en pleine croissance, le cœur est en pleine croissance, les poumons, les reins, mais même le système immunitaire aussi. Donc plus on est jeune, plus le système est immature, donc il va falloir qu'il devienne grand, tout simplement. Et puis chez les personnes âgées, c'est le contraire, c'est qu'il est fatigué, l'organisme est fatigué, le cœur est un peu fatigué, le rein est un peu plus fatigué. Souvent, il y a plusieurs organes comme ça qui sont avec des maladies, qui sont bien vécues au quotidien, mais dès qu'il y a un grand froid ou une grande chaleur, eh bien, l'organisme va avoir un petit peu de mal à s'adapter.
Allez, on va écouter maintenant cette inquiétude de Célia.
Pensez-vous que la canicule de 2019 finira comme la canicule de 2003 ?
Que ça a fait beaucoup de morts parce qu'il faisait très très chaud, jusqu'à 50 degrés à peu près.
Bon, il ne fait pas 50 degrés, hein, quand même, il fait plus de 40 parfois dans certains endroits cet après-midi.
Alors, on a les mêmes caractéristiques qu'en 2003. Mais la grosse différence, c'est qu'en 2003, ça nous est tombé dessus un peu comme ça. Moi, j'étais de garde aux urgences. On voyait les gens arriver parce que personne n'était prévenu. La météo avait prévenu, mais on ne voyait pas les services sociaux. Par exemple, les mairies n'appelaient pas les personnes âgées qui étaient isolées. Donc, les gens se retrouvaient à la maison. Personne n'était préparé, ni les hôpitaux, ni les équipes à domicile, ni les personnes elles-mêmes. Et donc, du coup, tout le monde a été pris au dépourvu. Là, la grande différence cette année, c'est qu'on a pu anticiper. Alors, on a pu anticiper dans les hôpitaux, on espère que les choses vont bien se passer parce qu'on manque de lits, toujours pareil, les services d'urgence, il y a toujours plein de monde. Mais surtout, on a anticipé à la maison. Et les gens, il y a des messages de publicité qui passent en disant hydratez-vous, buvez de l'eau, prenez soin des gens qui sont autour de vous, passez des coups de fil pour être sûr que vos voisins qui sont âgés ne sont pas isolés. Parce que ce qui a tué en 2003, c'est certes les températures, mais c'est surtout l'isolement social et le fait qu'il y avait des personnes âgées à qui on n'avait pas dit de boire. On les a laissées un petit peu seules et du coup, cet isolement a fait qu'on les a retrouvées trop tard. Et quand elles arrivaient à l'hôpital, c'était trop tard.
Allez, on termine par cette question de Célia.
Quels sont les bons gestes pour éviter les canicules ?
À titre individuel, pour éviter les effets de la canicule, c'est-à-dire pour que l'organisme puisse s'adapter, c'est s'hydrater 1 litre à 2 litres par jour, pas plus, parce qu'on peut avoir l'effet inverse, on peut avoir des intoxications à l'eau, on peut se noyer de l'intérieur, hein, c'est ce qu'on appelle les hyponatrémies, le taux de sodium de sel qui va diminuer dans l'organisme. Donc on s'hydrate, 2 litres maximum par jour, on va se rafraîchir, surtout on peut prendre des serviettes un peu mouillées, on peut mettre des draps sur les fenêtres avec des ventilateurs pour pouvoir faire passer de l'air frais, et puis on va aller dans des endroits climatisés. Il faut aller au supermarché, au rayon surgelé par exemple, et on sait que dans cet endroit-là c'est climatisé, on peut aller au cinéma, on peut aller dans les musées, il faut aller dans des endroits 2-3 heures par jour.
Ça repose le corps.
Oui, ça repose le corps et ça diminue la température. Ça permet de reprendre un peu des températures correctes. Et donc le fait de pouvoir aller dans des endroits comme ça où c'est climatisé, ça va permettre de recharger un petit peu les batteries. Et puis il n'y a pas que l'eau à boire, il y a aussi les pastèques, les melons, les fruits, tout ça c'est l'occasion avec des fruits de saison d'avoir des apports hydriques et ça c'est important. Et surtout il y a des choses à ne pas faire. Par exemple faire du sport, faire de l'activité, faire du jardinage en plein cagnard, comme on dit, c'est complètement inconscient, donc il ne faut pas le faire. Il faut plutôt faire la sieste. S'il y a quelque chose à réhabiliter, c'est la sieste en début d'après-midi, parce qu'on va diminuer un peu toute notre consommation d'énergie. Ça va permettre de diminuer les températures.
Et merci beaucoup pour tous ces conseils, docteur Gérald Kierzek, et bon courage pour ces prochains jours. Médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, invité aujourd'hui de France Info Junior, en partenariat avec Un Jour Une Actu.